Bienvenue sur notre podcast Vis-à-vis, le podcast du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Alors, c'est la deuxième saison de ce podcast qui parle de notre quotidien, des agents du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer qui protègent, qui aident, qui orientent, qui réglementent dans des moments forts de notre existence et qui sont au service de nos concitoyens. Cette deuxième session de podcast ambitionne de raconter des histoires, de donner la parole pour des témoignages, des actions de proximité de notre beau et vif service public. Et nous sommes aujourd'hui à Milly-la-Forêt, dans l'Essonne. J'ai la chance d'avoir avec moi Robin et Aurélien qui se présenteront dans un instant. Alors nous sommes arrivés ici entre chiens et loups à Milly-la-Forêt, au centre de secours des sapeurs-pompiers. Et puis la nuit est tombée, il fait nuit noire maintenant. Et ça tombe bien puisque aujourd'hui, on va vous parler avec Robin et Aurélien d'Edmiteux, de tous ces agents du service public qui travaillent la nuit. Alors on dit souvent, et c'est une maxime bien connue de tous, « Dormez, braves gens, il est minuit et tout va bien ». Ça vous rappelle, je pense, à beaucoup d'entre vous, vos manuels scolaires, et qui symbolisaient l'organisation finalement de la sécurité nocturne, la sécurité publique, les secours publics dans nos villes depuis le Moyen-Âge. On les appelle parfois les hiboux, plus communément les nuiteux. On va vous parler de tous ces travailleurs de nuit, policiers, pompiers, gendarmes, qui, pendant que l'on dort ou pendant que l'on s'amuse le soir, veillent sur nous. Alors, je vais commencer par te donner la parole, Aurélien, parce qu'on est ici chez toi, au centre de secours de Milly-la-Forêt. Est-ce que tu peux te présenter et nous présenter aussi ce centre qui a la gentillesse de nous accueillir ce soir?
Donc, bonjour, je suis Aurélien, j'ai 34 ans. Ça fait 10 ans que je suis sapeur-pompier volontaire au centre de secours Capitaine Pascal Audot de Milly-la-Forêt. Actuellement, je suis au grade de sergent. Au centre de secours, nous sommes une quarantaine de pompiers volontaires. Pour l'année 2022, on a fait 780 interventions.
780 interventions en 2022, ça fait une tous les deux jours?
Ça fait en moyenne deux par jour à peu près.
Deux jours et deux nuits, donc. Alors toi, tu travailles la journée, donc tu es volontaire, c'est-à-dire qu'en plus d'un travail salarié, ou je ne sais pas, tu vas nous dire ce que tu fais, tu donnes de ton temps pour être volontaire à la caserne.
Dans le privé, je suis donc responsable sécurité dans une entreprise. Donc mon rôle, c'est de faire de la prévention au quotidien. Donc je préviens les risques, éviter les accidents. Et dans ma seconde vie, les pompiers, je pense les plaies. Et donc du coup, je fais les deux actions. Donc ces deux métiers sont entre guillemets complémentaires.
Qu'est-ce qui t'a amené finalement à devenir pompier volontaire? Quel a été le déclencheur?
Alors déjà, c'était depuis tout petit, étant donné que dans ma famille, il y a plusieurs pompiers. Mmh. Mon père est pompier et c'était lui le chef de centre à l'époque quand je suis rentré au centre de secours. Et après, aider les gens était une passion.
Alors toi, Robin, tu nous viens de l'autre côté de l'Essonne.
C'est ça,
et
oui.
Tu es gendarme.
Exactement. Je suis sous-officier de gendarmerie depuis 4 ans bientôt. J'ai commencé en 2020. Je pense qu'on se comprendra un peu, Aurélien, parce que j'ai été pompier avant aussi, volontaire, pendant 3 ans.
Ou les deux.
Ouais,
okay.
Tout à fait, oui. Voilà, avant de basculer de l'autre côté. En tant que gendarme, oui, j'effectue des nuits également.
Alors justement, comment on travaille la nuit? Quel a été le cycle de travail? Comment tu as été amené à travailler la nuit?
Normalement, chaque unité gère son service de nuit sur son secteur de compétences. Donc après, les horaires, ça peut être très variable. Pour la compagnie de Palaiseau, donc qui est, on va dire, une partie du département de l'Essonne, ils ont mis en place un système avec une équipe qui travaille essentiellement la nuit. Et j'ai pu faire partie de cette équipe pendant une durée de 8 mois.
Comment on fait? On dort le jour et on se lève le
oui.
Soir?
Ouais, là, pour le coup, ouais, on est complètement décalé. Après, faut réadapter son quotidien par rapport à ça, quoi.
Tu vas nous en parler un peu plus longuement dans un instant. Pour toi, Aurélien, c'est la caserne combien de soirs par semaine, par mois?
Pour l'année 2022, j'ai monté en astreinte de nuit à peu près 1800 heures. Donc après, suivant les nuits, en fait, on va intervenir une ou plusieurs fois, ça dépend des nuits. Après, c'est aléatoire.
Alors comment ça se passe? On dort à la caserne ou on dort chez soi et on est rappelé? Et comment on est bipé? Comment ça se passe?
Pour la nuit, on est tous chez soi.
Donc et on dort dans son lit à soi.
On est dans son lit, on a le beeper à côté, sur la table de chevet. Il sonne, on a 7 minutes pour venir au centre de secours. Donc aujourd'hui, moi j'habite à 5 km, donc il y a une organisation au préalable à avoir. Par exemple, l'hiver, bâcher sa voiture, tout préparer.
Et puisqu'on n'a pas le temps d'enlever la glace.
Bah non, pas du tout. Donc il faut être prêt, être efficace pour prendre sa voiture et venir jusqu'au centre de secours.
Donc 7 minutes pour arriver et après l'intervention, on a tous les détails, l'adresse, les circonstances pour s'y rendre.
Tout à fait, on prend le ticket de départ qui nous annonce donc l'ordre de départ et l'adresse. Et puis l'engin, le personnel qu'il y a dans l'engin. Et ensuite, on se rend à l'intervention, on traite l'intervention. Aujourd'hui, une intervention en moyenne, elle est aux alentours de 2 heures sur notre centre de secours, étant donné que les hôpitaux sont relativement loin. Donc on a pas mal de délais de route.
Donc si on est réveillé à 1h30 du matin, on revient en moyenne vers 3h30.
C'est cette partie de la nuit qui est assez compliquée. Parce qu'après, bah, le lendemain, il y a le travail.
J'ai une question très très candide, mais est-ce qu'on entend toujours le beeper ou est-ce qu'on n'a pas peur de ne pas l'entendre quand on est, comme moi, des gens qui dorment très fort?
Alors, en fait, quand je suis d'astreinte, c'est comme si j'étais en veille, finalement.
On ne dort pas vraiment, c'est ça?
Si, on dort, mais tous les bruits, on les entend. Quand je ne suis pas d'astreinte, je dors vraiment profondément comme tout le monde. Mais effectivement, c'est une crainte de ne pas l'entendre, mais...
C'est jamais arrivé. Est-ce qu'il y a des trucs et astuces? Alors, tu disais, bâcher la voiture. Moi, j'avais lu une fois que les pompiers, ils laissaient les bottes dans leurs pantalons pour vite sauter dans les bottes, remonter le pantalon et partir encore plus vite. C'est vrai, ça, ou pas?
Moi, dans mon garage, j'ai le pantalon sur les bottes, tout qui est prêt. Je prépare la voiture, mettre la bâche, etc. l'hiver. Et puis, c'est le plus rapidement possible partir de la maison. Parce qu'après, c'est là qu'on gagne du temps. C'est pas sur la route qu'on gagne du temps.
Et non, il faut pas, je crois.
Et non.
Alors, en gendarmerie, comment ça se passe? Est-ce qu'on peut dormir pendant l'astreinte de nuit ou est-ce qu'on est sur place? Comment ça se passe pour être alerté?
Déjà, la majorité des gendarmes sont logés en brigade, en fait. Donc moi, j'habite sur mon lieu de travail. Du coup, quand je suis d'astreinte, je reste chez moi et j'attends.
Un coup de fil, un ronfleur.
Alors moi, on n'a pas de bip comme les pompiers ou le SAMU, mais on a un téléphone professionnel sur lequel on est joignable en permanence. Après, le service, il est calé pour que chacun ait son rôle à jouer pour la nuit. Et s'il y a une intervention ou une autre sollicitation, on est joignable sur ce téléphone. Et puis à toute heure de la nuit, on peut se lever ou pas.
Et toi, est-ce qu'il y a un truc comme ça que tu faisais machinalement pour gagner un peu de temps ou pour être bien réveillé? Parce qu'il y a aussi ça, est-ce qu'on est réveillé immédiatement? Est-ce qu'on retrouve tous ses esprits? Est-ce que des fois on n'arrive pas un peu endormi sur l'intervention?
Quand on est d'astreinte, on a cette petite pression supplémentaire de se dire tiens, le téléphone va sonner, je le pose à côté de moi et puis en général dès qu'il sonne, il y a le petit coup de stress qui monte. Après, j'ai gardé mes réflexes de pompier. Chez moi, je mets bien mes vêtements dans un certain ordre pour gagner du temps. Mais après, nous, on doit prendre plus de temps derrière d'aller au bureau, de s'équiper en gilet pare-balles, équipement d'intervention, monter dans la voiture, etc. etc.
Il faut bien sûr que le camion, la voiture soit prête, prééquipée, prête à partir. Il ne faut pas en plus qu'on ait à charger du matériel, j'imagine.
Prêt, tout est prêt en général, mais il y a toujours ces petits plus pour soi, pour s'assurer sa propre sécurité derrière sur le terrain.
Alors toi, tu as travaillé pendant 8 mois de nuit.
C'est ça.
Est-ce que tu as aimé cette expérience? Est-ce que tu le referais?
Ah oui, s'il y a encore des appels à volontaires, j'y retourne sans problème.
Alors qu'est-ce que tu as aimé?
C'est un autre métier.
Alors, explique.
Moi, là, je vous ai parlé des permanences des astreintes en brigade, mais là, pour le coup, on est en permanence sur le terrain, en voiture. On tourne dans les différents secteurs.
On patrouille,
exactement. Et puis là, c'est sur appel radio qu'on est disponible. Voilà. Donc, le but, c'était de pouvoir assurer une présence sur le terrain en permanence et d'avoir des délais d'intervention un peu plus raisonnables.
Pour nos concitoyens, quand ils appellent, ils n'ont pas à attendre. Si la voiture est déjà en mouvement, en patrouille, c'est encore plus rapide, j'imagine.
Ça dépend où on se trouve aussi.
Est-ce que vous êtes géolocalisé? C'est-à-dire, est-ce que c'est la patrouille la plus proche qui est envoyée? Ça existe, ça?
Pour parler du fonctionnement de l'équipe de nuit, on était à 6 pour toute la nuit.
Pas dans la même voiture?
Pas dans la même voiture, non.
Ça faisait beaucoup quand même.
On travaille donc de 23h à 7h. Et après, les trois équipages se distribuent les secteurs à surveiller. Et puis, il y a un seul équipage qui réceptionne tous les appels radio et qui après dispatche les différentes interventions en fonction de là où on se trouve et du lieu de l'intervention.
Alors qu'est-ce qu'il y a de si différent? Est-ce que c'est la nature des interventions? Est-ce que c'est la responsabilité qu'on a? Parce qu'on est un peu tout seul, si je comprends bien quand même, il n'y a pas grand monde la nuit.
Ouais, c'est ça, c'est un peu de solitude, mais les interventions, je dirais que c'est les mêmes. C'est juste notre manière d'appréhender l'intervention qui est différente.
Le contexte aussi.
Ouais.
Le contexte, il est un peu différent parce que l'environnement de nuit, on ne voit pas les choses de la même façon. Les risques, ils sont totalement différents. Rien que le risque routier, on n'appréhende pas la même chose. La vision, elle est différente. Donc, c'est vrai que c'est totalement différent. Sur un accident de la route, on va pas voir. On doit faire une reconnaissance beaucoup plus approfondie pour voir tous les points de détail. Sinon, on peut louper quelque chose par rapport à la journée.
Et est-ce que les interventions au domicile des personnes aussi sont différentes la nuit ? Dans des circonstances peut-être plus difficiles.
De toute façon, la nuit, de mon point de vue, c'est toujours plus dégradé qu'en journée. Après, chez les gens, ça dépend. Mais les gens, il faut se dire qu'ils sont aussi chez eux la nuit. La plupart, ils dorment. On arrive un peu dans leur intimité. C'est pas comme en journée où tout le monde est éveillé. Il y a toujours un petit côté étrange un peu. Et puis la nuit, on parlait de la visibilité. Il n'y a personne dehors, c'est très calme, c'est un peu pesant comme ambiance, donc voilà, c'est vraiment un autre univers le soir.
C'est le risque en fait, le risque de la nuit. Et puis il y a la partie physiologique de nous en fait, de l'intervenant, par rapport au, du moins il y a le premier impact, c'est physique, c'est notre fatigue, suivant comment on est réveillé, etc. Si on était aussi dans un sommeil profond, au moment où le bip sonne, le fait que lorsque l'on dort, on est à peu près à 50 pulsations par minute au niveau du cœur, et que lorsque on intervient, on passe à 100-110, donc déjà il y a cette adrénaline,
Il faut donner le meilleur parce que la victime, elle a besoin de nous, qu'on soit réveillé, pas trop réveillé, qu'on ait eu une dure journée au travail avant la garde de volontaire.
Tout à fait. Et cet aspect-là, du moins physique de l'intervention, on peut l'avoir aussi côté victime parce qu'elle aussi, elle a la fatigue, etc. Et puis aussi, durant la nuit, on peut avoir les phénomènes d'alcoolémie qui est un petit peu plus dégradé que dans la journée.
Donc pour toi, c'est quand même très différent de travailler la nuit par rapport aux gardes de jour.
Oui, c'est différent parce qu'on n'appréhende pas les choses de la même façon. Après, c'est vrai que dans mon cas, en fait, c'est vrai que je fais beaucoup plus d'interventions de nuit que de jour. Mais c'est vrai que oui, c'est différent. C'est le fait de pas, oui, la visibilité.
Est-ce que par exemple, on voit des animaux la nuit, plus d'animaux qu'en journée ?
Les sangliers, oui.
Les sangliers. C'est vrai qu'ici, il y a beaucoup de forêts. Hein. J'ai fait le tour avant de venir.
C'est déjà arrivé pendant les transports au niveau un transport dans la forêt de Fontainebleau qu'un sanglier traverse et que là
aussi,
on est
y a
avec.
Du danger.
L'ambulance, on risque de percuter, donc du coup, on aggrave la situation vu qu'on a une victime derrière, donc c'est vrai que c'est dangereux. Oui.
Comment on s'habitue justement physiologiquement à travailler la nuit ?
Ça dépend des gens aussi, on n'a pas tous la même manière de s'adapter.
Alors toi par exemple, tu dormais quand au final ? Tu finissais à quelle heure ?
Alors je finissais à 7h, donc le temps de rentrer, je devais être chez moi vers 8h. Après, je dormais en général jusqu'à 14h, 15h grand max.
C'est le réveil qui te réveillait ?
Je mettais un réveil, ouais. J'essayais de m'imposer un réveil parce que sinon, des fois, on a tendance à prolonger le sommeil et c'est derrière, si on doit reprendre la nuit derrière, on se sent beaucoup plus fatigué. Au moins, de s'imposer un réveil, ça me permettait déjà de prendre mon repas, de profiter un peu de temps pour faire l'activité physique. Et après, j'avais du temps libre pour moi, quoi.
Et tu reprenais à quelle heure le soir ?
À 23h.
Donc ça laissait un peu un début de soirée, on va dire.
Ouais, voilà, c'est ça. Et puis après, on avait un service avec des coupures dans la semaine pour se reposer aussi.
Oui, c'était pas tous les jours et il y a aussi des repos un peu plus longs.
Non, et puis moi, je réadaptais mes horaires sur les périodes de travail et sur les périodes de repos.
C'est-à-dire parce que quand on veut faire un week-end avec des amis, par exemple, faut revivre en journée et redormir la nuit, ça c'est possible ou alors on est tout le temps décalé ?
Non, on est tout le temps décalé. Mais à part
donc
contre,
faut avoir
vous
des amis
allez...
qui se couchent tard.
C'est ça, ou alors vous vous couchez, si d'habitude vous travaillez jusqu'à 7h, moi par exemple je me recouchais quand je travaillais pas aux alentours de 2h, 3h, un peu plus tôt que prévu par rapport au travail, comme ça on reste quand même un petit peu décalé et on reste un peu dans le rythme sur le long terme. Quoi.
Toi Aurélien, c'est un petit peu différent j'imagine, parce que tu travailles ton activité dans le privé la journée, la nuit tu es volontaire. Est-ce qu'il y a une hygiène de vie à avoir ? Comment tu fais pour être en forme au maximum et pouvoir enchaîner tout cela ?
Il y a le sport, garder une forme physique et mentale. et ensuite essayer de se reposer au maximum. Alors moi, j'ai la chance de pouvoir parfois adapter mes horaires. J'ai eu le cas de figure où on a eu un départ pour feu à 1h10 du matin. On a été relevé à 7h30 du matin. À 8h30, j'étais sur la route pour aller au travail. Donc, je me suis arrangé après avec mon responsable pour partir vers 15h, 16h. Et après, bon, je compense durant la semaine. Mais c'est vrai qu'après, le soir, j'essaye de me coucher tôt pour récupérer.
Je crois qu'il y a des employeurs qui donnent aussi des facilités aux volontaires, qui permettent des adaptations comme ça. Ça, c'est important que l'employeur soit compréhensif aussi.
Tout à fait. Certaines entreprises font des conventions avec le SDIS. Donc, on a un service, le GEVEC dans le 10-91 qui œuvre pour avoir des conventions avec les entreprises pour avoir des pompiers volontaires au sein du SDIS.
Et avec la vie de famille, on arrive à s'organiser, les enfants, je ne sais pas si tu as des enfants.
Non, pas d'enfants, donc oui, on s'organise. Alors effectivement, le soir, je suis présent. La seule chose, c'est que en une fraction de seconde, je pars pendant le repas ou je pars en plein milieu de la nuit. Donc on s'arrange.
Tu as planté tes amis lors d'un dîner ou d'une
c'est
soirée.
C'est ça, dîner
de Noël. Ils disent pas on l'invite plus parce qu'il part toujours avant la fin.
C'est ça, les dîners de Noël, j'ai loupé les cadeaux une année, c'est comme ça.
Nous, on y trouve du plaisir.
Oui, tout à fait.
On s'est engagé pour ça.
Tu recommanderais à des jeunes d'être nuiteux ?
Ouais.
Des jeunes ou des moins jeunes, d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi je dis des jeunes.
Chacun a sa convenance. Mais oui, bien sûr. Enfin, pour les jeunes, c'est une expérience intéressante.
Est-ce qu'il y a autant de hiérarchie ? Est-ce qu'on a autant de conseils d'anciens la nuit ? Ou alors, des fois, on se débrouille un peu, c'est le plus ancien qui décide et...
Dans mon travail, on doit savoir prendre des initiatives en fonction de la situation. En patrouille, on n'est que deux, ou trois, en fonction du si on est riche en personnel. À deux, on doit savoir se débrouiller le temps que les renforts viennent nous assister. Donc, parfois, la notion de hiérarchie, elle est minime.
Est-ce qu'il y a une intervention qui t'a plus marqué ? Ça peut être la première, ou une où t'as tout donné, ou une qui t'a profondément émue, touchée. Est-ce que je t'avais pas préparé cette question, mais est-ce qu'il y a une intervention qui t'a le plus marqué ?
Oui, bien sûr. J'ai une intervention qui m'a marqué. Ouais.
Tu veux bien nous la...
Je ne sais pas si je peux en parler.
Sans donner de nom, de manière un peu générale, qu'on s'imagine ce que c'est le quotidien d'un huiteux, sans trahir le secret professionnel.
Bien sûr. Désolé, je cherche mes mots parce que c'était compliqué, c'était quand même très compliqué comme situation. Pour faire très résumé, j'ai pu vivre un usage des armes sur le terrain.
Donc ça veut dire quelqu'un qui vous a tiré dessus avec la patrouille?
Non, c'est mon camarade qui a fait usage de son arme. Voilà. Je rentrerai pas dans les détails, mais
parce qu'il y avait une scène de violence ou...
Je ne rentrerai pas dans les détails. Ça a été la plus marquante des expériences que j'ai vécues et ça s'est fait de nuit.
Ça s'est bien terminé.
Moi après j'ai pris un arrêt de travail suite à ça.
Parce que c'était traumatisant.
En fait j'ai eu un pic de stress à ce moment-là, donc il y a un moment donné quand le stress monte trop fort, le corps lui suit plus, donc faut savoir s'arrêter. Et après on est aux mains des professionnels de santé quoi.
Justement quand on travaille la nuit, est-ce que on a des visites médicales ou est-ce qu'on voit de manière récurrente un psychologue ? Est-ce qu'il y a une prise en charge particulière quand on travaille de nuit pour les pompiers ou pour la gendarmerie d'ailleurs?
Pour nous, les gendarmes, c'est la prise en charge, elle est plus en cas de, comme moi, de traumatisme,
d'intervention marquante.
Ouais. Après, au quotidien de la nuit, non, pas spécialement.
Et vous, chez les pompiers, vous avez une prise en charge particulière?
On a les visites médicales traditionnelles et après, effectivement, suivant les interventions, on a un suivi psychologique par le médecin du service médical et on a des psychologues au sein du SDIS 91.
Et toi, est-ce qu'il y a une intervention comme ça qui t'a plus marqué ou tu...
Oui, effectivement. C'était le 24 décembre 2016. Je suis intervenu pour un accident d'un CCF, donc camion-citerne feu de forêt, qui se rendait sur un feu de cheminée à l'époque.
Donc c'est le camion qui a eu un accident.
C'est le camion qui a eu un accident et ce jour-là, on a perdu un camarade et les trois autres étaient blessés. Et voilà, il y a des séquelles fortes. Et c'est pour ça que ce centre de secours a le nom de notre camarade disparu, pour lui rendre hommage.
Eh ben, c'est un hommage important et puis ça rappelle aussi qu'il y a des risques du métier la nuit, mais aussi, aussi en journée. Et c'est important de le rappeler. Alors, dans l'imaginaire collectif, la nuit, il y a plus de dangers, il y a ce sentiment d'insécurité. Est-ce que, en matière de lutte contre la délinquance, c'est quelque chose que tu as pu voir aussi sur le terrain, une délinquance plus difficile la nuit, ou finalement, c'est juste notre sentiment, notre appréciation ?
Bon, je pense qu'on se fait, nous aussi, en tant que professionnels, des a priori sur le niveau de délinquance. C'est juste qu'on est confronté à un peu plus de délinquance qu'en journée. Mais après, la manière de... Enfin, la délinquance, elle reste la même, que ça soit le jour ou la nuit, quoi. Mais comme on disait tout à l'heure, c'est le fait qu'on soit isolé, parfois, qu'on soit un peu seul face à nos décisions, à la situation, ça rend l'événement plus stressant et plus dur à gérer.
Est-ce que vous débriefez beaucoup entre vous ?
On essaye, oui. On essaye. De toute façon, si ça se passe bien...
Il n'y a pas à débriefer.
Non, et puis après, bah, on en parle quand même. On parle quand même des interventions qu'on vit. Après, quand il y a quelque chose de plus complexe ou si l'événement a pris une tournure qu'on ne pensait pas, là oui, y a, derrière, on fait un dialogue quand même. C'est un retour d'expérience, quoi, comme on dit. C'est très important pour pouvoir aborder au mieux les prochaines situations.
Et est-ce qu'on vit différemment de travailler la nuit selon si on est en plein hiver ou si c'est des nuits très courtes en plein été ? Est-ce que c'est un peu différent ?
Pour la nuit, ce que l'on met en place, c'est parfois on dort ici au centre de secours pour éviter de prendre des risques sur la route. Donc effectivement, la conduite est totalement différente. L'appréhension de l'intervention sur feu peut être différente étant donné que l'eau peut geler. Donc du coup, il y a des choses à prendre en compte par rapport aussi aux pompes.
Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On met des produits dans l'eau pour éviter de geler ?
Il faut toujours laisser couler un petit peu pour éviter que l'eau gèle dans les tuyaux. Et après, l'été, effectivement, les nuits sont plus courtes, donc c'est un peu différent. Mais...
Alors je crois, toi Aurélien, tu t'occupes aussi de la section jeunes sapeurs-pompiers au centre de secours. Est-ce que tu recommandes aux jeunes de travailler la nuit ? Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a un âge minimum pour travailler la nuit ? Peut-être que les jeunes, on ne les fait pas travailler la nuit.
Aujourd'hui, pour être pompier volontaire, c'est à l'âge de 18 ans. Mais par contre, les jeunes sapeurs-pompiers, on leur inculque que les bonnes pratiques et le métier dès l'âge de entre 12 et 13 ans pour qu'ils puissent avoir le brevet et ensuite intégrer le centre de secours volontaire. Alors effectivement, on leur apprend le métier, alors pas spécifiquement pour la nuit, mais leur donner envie de faire ce métier parce qu'on a besoin de pompiers volontaires derrière. Et c'est assez valorisant pour nous en tant que formateurs d'avoir un jeune... qui commence et à la fin qui est présent avec nous dans l'engin.
Alors comment faut qu'ils fassent les jeunes s'ils veulent devenir soit jeunes sapeurs-pompiers, soit sapeurs-pompiers volontaires ? Comment ça se passe ?
Alors,
il y a un concours ?
Alors pour les jeunes sapeurs-pompiers, non, il n'y a pas de concours. Nous, on reçoit les candidatures au niveau du centre de secours. Et après, par rapport au fait de vouloir être pompier volontaire, les personnes doivent se rapprocher des centres de secours pour prendre rendez-vous avec les chefs de centre pour qu'ils puissent leur expliquer le contexte dans lequel ils vont évoluer et les conditions d'accès. Aujourd'hui, on peut être pompier volontaire. Alors les entrées, c'est à partir de 17 ans jusqu'à 55 ans. Donc pour les femmes, pour les hommes. On accepte tout le monde aujourd'hui parce qu'il y a un réel besoin.
Il ne faut pas faire une taille minimum, un poids minimum, un niveau sportif minimum. Il faut se présenter, comprendre les contraintes et discuter tout ça avec le chef de centre, c'est
tout,
ça ?
Tout à fait. Donc le chef de centre va pouvoir diriger la personne, lui expliquer les conditions d'entrée et les conditions aussi d'entrée pour l'aspect physique. Et effectivement, il y a des tests sportifs pour
il faut s'entraîner un peu, mais c'est accessible.
C'est accessible,
que tu veux dire.
Tout à fait. Il n'y a pas si longtemps que ça, on a un pompier qui est rentré. Il avait plus de 50 ans chez nous aujourd'hui. Donc tout le monde peut réussir. Mais il faut du temps Et après, avoir le bon équilibre de vie entre l'équilibre professionnel, familial et puis après pompier.
Et toi, au bout de 10 ans comme ça d'expérience de volontaire, tu le recommanderais? Tu as envie de dire aux gens, engagez-vous, c'est important ce qu'on fait, la nuit, le jour, et il faut donner un peu de son temps pour justement sécuriser, protéger.
C'est une super expérience, ça permet de se construire aussi, et puis d'être utile, surtout pour la population. Et la particularité d'un pompier volontaire, c'est que parfois, c'est les personnes proches, la famille,
c'est ses voisins,
ça peut être les voisins, etc. Tout à fait. Donc, en fait, on défend notre territoire et la population que l'on connaît, en fait, finalement.
Et toi, est-ce que tu dirais à des gendarmes, engagez-vous et engagez-vous la nuit, notamment? Est-ce que tu as cette flamme et autour de toi, est-ce que tu en parles ainsi?
Moi, j'aime
malgré
bien...
ce que tu as vécu, qui est fort, qui est
ouais,
lourd.
Mais ça n'empêche pas de continuer, d'avancer derrière au service de notre pays, surtout. Moi, oui, je le valorise, le travail de nuit chez nous, parce que c'est un réel gain en expérience. Et moi, j'ai appris beaucoup de choses. Moi, ça, comme je disais, ça fait que 4 ans que je suis gendarme. J'ai pu acquérir des connaissances, une expérience folle que d'autres n'ont pas eue. Peut-être, chaque carrière va à sa propre vitesse. Hein. Les jeunes qui sont déjà gendarmes et qui veulent faire ce genre d'expérience, je les invite vivement à le faire, et même pour les plus anciens.
Hein. Et toi maintenant, on l'a dit tout à l'heure, tu as quitté le service de nuit, mais je crois savoir, on m'a dit que tu continues à travailler la nuit, mais pour la révision d'un concours, parce que tu passes bientôt l'examen d'officier de police judiciaire, je crois, et que ça doit demander beaucoup de révisions, notamment nocturnes.
Alors, moi, en fait, je fais des nuits jusqu'à une certaine heure, parce qu'après, c'est justement le groupe dans lequel j'étais qui reprend la main.
Ce concours, tu le passes quand?
Alors, l'examen, c'est au mois d'octobre 2023.
Et je pense que cette expérience de nuit, ça va être valorisé pour le concours. Tout ce que tu as appris pour un concours d'officier de police judiciaire, qui est un concours très difficile, c'est valorisant.
Ça sera valorisant, je dirais, pour... la carrière en général, et j'espère pouvoir valider cet examen et retourner au groupe de nuit avec cette nouvelle spécialité.
En tout cas, c'est vraiment ce qu'on te souhaite, Robin. On regardera la liste des résultats du concours d'OPJ et on espère qu'on verra ton nom sur ces résultats. En tout cas, merci beaucoup de ton témoignage qui était très poignant. Merci aussi à toi, Aurélien. On a bien compris le message qu'on va aussi relancer pour tous les jeunes qui veulent s'engager, rejoindre les jeunes sapeurs-pompiers ou aussi rejoindre comme volontaires les centres de secours. Un peu partout en France, il faut aller au centre de secours le plus proche, discuter, comprendre les enjeux, les contraintes, tout le plaisir qu'on peut avoir à être volontaire. Et puis peut-être comme toi, après, on y fera de longues années, de nuit, de jour, parce qu'il y a beaucoup de travail finalement. Pour tous. Merci en tout cas à tous les deux pour ces témoignages. Et puis un grand coup de chapeau à tous nos collègues qui travaillent de nuit, les policiers, les gendarmes, les pompiers, mais aussi les agents de préfecture parfois qui montent des permanences sur des grands événements, notamment la nuit. Un grand coup de chapeau à tous ceux qui sont réveillés alors que nous on dort pour qu'on puisse vivre au quotidien en toute sécurité et en toute protection. C'est vraiment une des missions au ministère de l'Intérieur qui est ainsi gérée par ses agents de jour comme de nuit. À bientôt en tout cas.
Merci beaucoup.
Merci.